Eh bien, content de vous retrouver. Je n'ai pas salué tout le monde, alors j'en profite. Après ce break que nous avons eu, un petit rappel donc sur les quatre soirées que nous avons eues ensemble. La première fois, on a introduit le sujet et je vous disais qu'on va réfléchir sur l'espérance en regardant les épisodes de la résurrection. Vous vous souvenez, l'espérance donc, qui implique une triple dimension. Quand j'espère, c'est toujours un bien futur, donc ça implique le désir. Quand j'espère, c'est toujours un bien possible, donc ça implique la confiance. Et puis quand j'espère, c'est toujours un bien ardu, sinon c'est simplement l'attente ou l'optimisme. Il n'y a qu'à tendre la main. Un bien ardu, ça implique la combativité. Donc, au fond, pour booster notre espérance, il faut renouveler notre désir, renouveler notre confiance, renouveler notre combativité. Ça, c'est la structure de base. Et ensuite, on regarde comment tout ça va se réaliser à partir de la résurrection du Christ, comment grâce au Christ, il va nous faire revivre un désir intense, il va nous montrer que la victoire est certaine, donc pas seulement possible, mais certaine, et il va nous montrer voilà, qu'on peut entrer dans le combat avec lui parce qu'on a déjà la victoire. Alors, premier moment où Jésus va essayer de ramener l'espérance dans son Église, vous voyez que le point commun, ils sont tous désespérés hein, par la Vierge Marie. Tous, ils ont le moral totalement dans les chaussettes, alors qu'ils n'en avaient pas à l'époque, mais enfin, ils ne vont pas bien. Et Jésus va les récupérer un par un. Le premier qu'il récupère, c'est Jean. Lui, il est dans les ténèbres, mais enfin, il court au tombeau, il vit et il crut. Premier passage, des ténèbres à la lumière. Ensuite, vous avez Marie-Madeleine, qui est aveuglée, elle, par sa tristesse. Deuxième passage, il lui dit « Marie », elle se retourne, elle se jette à ses pieds en disant « Rabboni ». Et là, elle passe de la tristesse à la joie. Donc, elle sort de son propre tombeau. Elle était dans le tombeau de la tristesse et voilà qu'il la ramène à la joie. Et puis, finalement, on a vu la dernière fois les 10. Thomas n'est pas là, on va parler de lui ce soir. Ils sont 10, Judas n'est plus là. 10, mais réunis autour de la peur. Ils sont claquemurés, ils ont fermé la porte à double tour par peur des Juifs. Et Jésus vient se tenir au milieu de leur peur, pour les faire passer de la peur à la paix. Alors ce soir, on va voir un autre passage avec un personnage qui est important dans l'évangile de Jean, Thomas l'apôtre. On parle de lui trois fois, à ma connaissance, dans l'évangile de Jean. Il apparaît d'abord, et ça nous dit quelque chose de son caractère. Il apparaît d'abord au chapitre 11, juste avant la résurrection de Lazare. On vient voir Jésus qui est avec ses disciples, assez loin de Jérusalem, parce qu'il a failli être tué déjà, on voulait déjà le lapider. Voilà qu'il s'est mis à l'écart par prudence, et puis Marthe et Marie lui envoient des gens pour lui dire « Celui que tu aimes est malade ». Et là, ils attendent qu'il vienne. Mais les disciples lui disent « Mais pas du tout, tu te souviens, il voulait te tuer là-bas, donc n'y va pas, c'est très dangereux. » Et il n'y en a qu'un qui n'a pas l'air d'avoir peur de la mort, mais qui a l'air d'être un peu un désespéré, c'est Thomas qui dit « Allons, nous aussi, mourir avec lui. » Première fois qu'on voit Thomas dans l'évangile de Saint Jean, « Allons, nous aussi, mourir avec lui. » Donc, côté desperados, vous voyez, le type, il est chargé, il y va, mais enfin, il n'a pas vraiment l'espoir que ça va bien se passer. Donc ce n'est pas un peureux, mais c'est plutôt un désespéré, Thomas. Au chapitre 14, Jésus leur indique, c'est le discours d'adieu, Jésus leur indique qu'il va les quitter, et il leur dit « Mais pour me suivre, vous savez le chemin. » Et Thomas répond « Nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Donc on voit que le type, il est plutôt rationnel, logique. Tu nous dis qu'on connaît le chemin, on ne sait même pas où tu vas, donc ce n'est pas logique. Pour connaître un chemin, il faut déjà savoir où on va. Et si vous allez à l'aéroport, vous dites « Donnez-moi un billet », la personne va vous regarder en disant « Mais pour où ?» Vous dites « Je ne sais pas, je veux juste un billet ». Là, il va penser qu'il ne faut pas vous donner un billet. Donc, normalement, il faut connaître le but. En fonction du but, on détermine le chemin. Et là, donc, il est logique, Thomas, nous ne savons pas où tu vas, comment saurions-nous le chemin ? Donc on a deux caractéristiques de Thomas. C'est quelqu'un qui n'est pas un peu heureux, mais qui est plutôt désespéré. Et c'est quelqu'un qui est un logique, plutôt un rationnel. Eh bien, c'est ce qu'on va retrouver dans l'épisode de la résurrection. Il n'est pas là au moment où Jésus était apparu. Le soir de la résurrection, Jésus est apparu aux 10 et Thomas n'est pas là. Et pourquoi il n'est pas là? Ils ont tous peur, ils se sont mis ensemble par peur. Lui, il est à l'extérieur. Donc, première chose qu'on remarque, il n'a pas le même problème que les autres. Lui, il n'a pas peur. Peut-être les Juifs vont le prendre, ce n'est pas son problème. Il n'est pas d'abord mu par la peur. Son problème à lui, c'est que il est pessimiste au fond. Lui, il en a marre de la communauté. Il commence à dire, bon, bah, maintenant je trace ma route. Salut les gars. Vous voyez, donc il se sépare de l'Église. On va voir que c'est un homme qui est dans la séparation, dans l'isolement, et finalement dans le manque de confiance dans les autres. Ce qu'on va voir finalement en méditant sur l'apparition de Jésus à Thomas l'apôtre, c'est le passage du désespoir ou du pessimisme à la foi. Le passage du doute à la foi. Il met en doute la parole des autres. Et il va retrouver la foi. Et la question de fond que j'aimerais vous poser ce soir, c'est est-ce qu'on peut être lucide sur les problèmes et pourtant dans l'espérance? Est-ce que c'est quelqu'un qui est logique, qui est rationnel, qui voit les choses, qui est lucide? Nous sommes mal partis, les gars. Notre petite église, là, c'est foutu. Il n'y a plus rien à faire ensemble. Moi, je trace ma route. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Il est lucide d'une certaine façon, il voit les choses négativement parce qu'effectivement elles apparaissent négatives. Est-ce que c'est possible d'être lucide sur l'état du monde actuel par exemple et pourtant d'être dans l'espérance? Donc je crois que l'apparition à Thomas elle est très importante, en plus on est pendant le carême, donc on va méditer sur déjà la résurrection, vous voyez que quelque part c'est anachronique, on est au début du carême, on médite déjà sur la fin. Mais en fait, c'est bon, c'est parce qu'on a besoin pour l'espérance de partir de la victoire. Vous voyez, on ne fait pas le carême sans savoir qu'à la fin, il ressuscite. Et chaque année, on ne fait pas semblant, vous voyez. J'espère qu'il va ressusciter cette année, vous voyez. Non, on le sait déjà, ça fait 2000 ans qu'on le sait. Donc, on ne vit pas le carême comme si on était avant la résurrection. On vit le carême comme des gens qui savent déjà la fin. Le film est spolié, qu'on a déjà la fin du script. Donc on vit le carême en partant de la résurrection. C'est pour ça que c'est pas mal finalement de faire un parcours sur la résurrection pendant le carême. C'est comme ça, ça nous aide tout de suite à voir le but. Alors lisons le texte. Or Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant closes, et il se tint au milieu et dit, « Paix à vous. » Puis il dit à Thomas, « Porte ton doigt ici, voici mes mains. « Avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne deviens pas incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors voilà, on connaît bien ce texte, mais ça vaut la peine de le reprendre ligne à ligne, parce que comme d'habitude avec la parole de Dieu, chaque mot compte, chaque mot est porteur d'une densité infinie. Or Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Donc Didyme, ça veut dire jumeau. Alors, vous avez remarqué, dans l'Écriture, on ne nous parle jamais de son jumeau. C'est drôle, à chaque fois qu'on parle de Thomas, on dit que c'est le jumeau. Thomas aussi, ça veut dire jumeau d'ailleurs. Et on dit, mais alors c'est qui ton jumeau? Je pense que si on n'en parle pas, si à aucun moment on voit le jumeau de Thomas dans les Écritures, c'est parce que son jumeau, c'est nous, en fait. Si vous cherchez le jumeau de Thomas, prenez un miroir. Nous aussi, nous n'étions pas là le soir de la résurrection. On a au moins ça en commun. Peut-être on n'est pas tous des pessimistes, mais on a au moins en commun avec Thomas que nous n'étions pas là le soir de la résurrection. Et on nous dit « Thomas n'était pas avec eux ». Alors, on va être attentif aux négations dans ce texte. Dans l'écriture du texte, dans la narration, vous allez avoir beaucoup justement de ces expressions. Il n'était pas, je ne mettrai pas ma main, etc. Je ne croirai pas. On est face à un homme de la négation. Il faut prendre au sens très fort cette expression. Il n'était pas avec eux. Il n'était plus avec eux. Ça exprime le primat du non, le primat de l'isolement. L'isolement dans la négation. Ça, je pense, c'est ce qui caractérise Thomas. Le refus d'adhérer. Vous voyez, quand vous doutez, on va parler du doute, vous êtes dans une négation. Je ne juge pas. Je suspends mon jugement. Je ne nie pas non plus, parce que nier, c'est encore affirmer quelque chose. Je suspends mon jugement. Donc lui, il n'est pas enfermé physiquement, il est enfermé spirituellement. Il est enfermé dans sa propre négation. Il est enfermé dans, non pas la peur comme les autres disciples, mais dans son refus de se fier au jugement, pourtant unanime de ses frères. Il est enfermé intérieurement. Et combien de personnes sont ainsi, hein ? Le quant à soi. Ça donne toujours l'impression d'être très intelligent quand on critique, quand on doute de tout. Et ça donne l'impression d'être un peu bête quand on adhère à quelque chose. Celui qui dit toujours non, quelque part, a une position de supériorité. Il se met dans l'attitude critique. Donc lui, au moins, il est lucide. Lui, il n'est pas naïf. Celui qui dit oui, toujours l'impression que oui, c'est un suiveur. Il n'était pas avec eux, mais il a tort, nous on le sait. En l'occurrence, il a tort. Il y a une parole de l'Ecclésiaste qu'il ne faut jamais oublier, « Ve soli », « malheur à l'homme seul ». Donc, une des choses qu'on va voir ce soir, c'est l'importance de l'Église. « Malheur à l'homme seul ». Pareil, souvent les gens se font une fierté d'être autodidacte. « J'ai tout appris par moi-même ». Mais c'est plutôt une faiblesse, en fait. Ça montre qu'il y a de l'énergie, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très positif. Mais en fait, un autodidacte n'a pas eu un maître, et donc il a tout appris en désordre. Le propre d'un maître, c'est qu'il va faire apprendre les choses progressivement. Si tu veux aller là-haut, il faut commencer par là, là, là. Le propre d'un maître, c'est qu'il va te donner un chemin plus facile, puisqu'il a déjà parcouru, il connaît tous les chemins. L'autodidacte, il entre dans une bibliothèque, il prend les livres au hasard. Le maître, il va te dire, lis d'abord ça, puis ça, puis ça. Donc finalement, tant mieux, hein, si quelqu'un n'a pas eu la chance d'avoir un maître, il est autodidacte, c'est déjà le signe qu'il a une grande énergie intellectuelle. Mais en soi, la communauté est bienfaisante. Le fait d'avoir des maîtres, c'est plutôt bienfaisant. Malheur à l'homme seul, dit l'Ecclésiaste. Donc il y a une mauvaise solitude, il y a un isolement intérieur par rapport à la communauté ou par rapport à l'Église qui est dangereux. Ce soir-là, parce qu'il n'était pas avec eux, il a raté la résurrection. Alors je continue le texte. Les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur. Donc il arrive en retard, pour ça qu'on dit, hein, tous ceux qui sont en retard, on dit que c'est des gens dont le Saint-Patron est Saint-Thomas. Nous avons vu le Seigneur. Il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Là on retrouve le rationalisme de Saint-Thomas, enfin de Thomas à l'époque, il n'est pas encore saint. Et sur ce point aussi, il est un peu notre jumeau. Il veut bien croire, mais à condition d'avoir des preuves. Nous, on voudrait tous ça aussi. Je veux bien croire, mais si j'ai des preuves, à ce moment-là, il n'y a plus à croire, puisque tu as des preuves. Si tu as des preuves, tu sais, tu ne crois pas. Vous ne pouvez pas à la fois savoir et croire. Quand j'ai des preuves, je sais. Quand je n'ai pas de preuves, je crois. Thomas, il demande des signes, un peu comme on avait l'évangile aujourd'hui. Hein. Ce peuple demande des signes, mais en guise de signes, ils n'auront que le signe de Jonas. C'était justement l'évangile d'aujourd'hui, s'il y en a qui sont allés à la messe aujourd'hui ou qui ont lu cet évangile. Ce peuple demande toujours des signes, des preuves, quoi. Descends de la croix, alors nous croirons. Hein, on voudrait vraiment des preuves, on voudrait que Dieu pense comme nous, en fait. Alors que la conversion consiste à penser comme lui. Et là, ça va être le basculement de Thomas. Si je ne mets pas, il met des conditions, et si je ne mets pas ma main dans son côté. Il exprime ici son refus. Alors le verbe grec employé ici, c'est intéressant. Le mettre ici, La dernière fois qu'il est apparu dans l'évangile de Jean, c'est dans l'épisode de Gethsémani. Quand Pierre a pris son glaive, Jésus lui a dit « Remets ton glaive, mets ton glaive dans le fourreau ». Donc il y a comme un jeu de mots ici, comme si au fond la phrase de Thomas était comme un glaive. « Si je ne mets pas ma main, remets ton glaive, ton glaive au fourreau ». Vous voyez, donc il y a une idée de violence ici par simplement résonance des mots et des contextes. Ça rappelle le geste de Pierre avec son épée. Il y a une violence ici de Thomas. La négation, le refus de croire fait violence à Dieu, c'est sûr. 8 jours après, donc du coup il a attendu 8 jours quand même. Hein. Vous imaginez, pendant 8 jours, il voit les types qui sont en train de chanter Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et lui, il est en carême, il dit non, pas d'Alléluia pendant le carême. Donc lui, vous m'énervez les gars, votre joie m'énerve grave. Donc pendant 8 jours quand même, il les voit tous en train de danser et lui, il boude. 8 jours après, les disciples étaient à nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant closes et il se tient au milieu et dit « Paix à vous hein, !» Shalom, shalom aleichem. 8 jours plus tard, Cette fois, il est avec les disciples, mais au fond, il l'est physiquement. Hein. Souvent, comme on dit, les gens ils sont présents physiquement, mais pas forcément spirituellement. Là, c'est le cas, puisqu'il est dans, il est avec eux, mais il n'a pas la même foi. Donc, quelque part, il est séparé d'eux par la foi. Donc, il demeure spirituellement à l'extérieur, même si physiquement, il est à l'intérieur. Il s'est mis hors de la communion par son refus de croire. C'est intéressant, ça, vous voyez, qu'une des choses qui nous unit, c'est le credo. Nous avons un credo commun. Et ça, c'est très fort, quand même. Le fait que, quand je dis « je crois », c'est en même temps un « nous croyons ». Ce qui constitue l'Église comme communauté, c'est la foi. Nous avons un même credo. On peut ne pas s'entendre, on peut avoir des caractères différents, on se dispute pour des bêtises. N'empêche, nous disons tous « je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Il y a une sorte de communauté de foi. Qui constitue l'Église. Alors Jésus vient, les portes étant closes. Donc ils ont toujours les portes verrouillées, mais cette fois je pense que le symbolisme est différent. Parce qu'eux, ils sont libérés de la peur, quelque part. Ils ont été déjà libérés de la peur par le Christ. Ici, je pense que ça nous est montré pour dire que le Christ passe à travers n'importe quoi, même à travers ton manque de foi. Sinon, il n'y aurait aucun athée qui se convertirait, il n'y aurait aucun incroyant qui se convertirait. Le manque de foi, c'est un peu une porte en téflon, une porte blindée. Et n'empêche, Jésus, il s'en fiche, il passe à travers. Je crois que c'est ça l'idée. Il vient remettre la paix au milieu même du refus de croire. Il vient au milieu du refus de croire, et là, il annonce la paix. La paix soit avec vous. Alors, il dit à Thomas, puisque cette fois, c'est vraiment pour Thomas qu'il revient, c'est miséricordieux de sa part. Hein. Il aurait pu lui dire, bon, bah, t'étais pas là. Maintenant, tu refuses le témoignage pourtant des 10, là, qui est témoignage unanime, donc tu es vraiment têtu, tu es stubborn, tu as la tête dure. Non, il vient juste, ça va être pire d'ailleurs qu'une correction. Il arrive, je dis juste à Thomas, au fait, bonjour Thomas. Ça, c'est pas dans le texte, mais enfin, ça a dû être ça. Hein. Porte ton doigt ici, voici mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais croyant. Ah, c'est bizarre, oui. Il semble se contredire à Marie-Madeleine, il lui a dit ne me touche pas. À Thomas, il lui dit touche-moi. Donc, alors, il faut savoir, faut le toucher ou pas le toucher. En fait, c'est qu'il s'adapte aux personnes. Puis d'ailleurs, est-ce que Thomas l'a touché? Toute la tradition dit Thomas l'a touché, même le bouquin là que vous pouvez acheter, pas cher, sur les plaies de Jésus. J'ai mis une peinture de le Caravage, où c'est quasiment anatomique, on voit le gars qui met son doigt, Thomas qui met son doigt dans la plaie, là vraiment, là c'est carrément un traité d'anatomie. Est-ce qu'il a touché, malgré le Caravage? Moi, je vous avoue, psychologiquement, je me dis, il y a le Christ qui arrive là, qui me dit « Mets ta main dans mon côté », je dis « C'est bon. » C'est bon, je crois. Et d'ailleurs, ensuite, Jésus lui dit pas « Parce que tu m'as touché, tu as cru », il dit « Parce que tu as vu, tu as cru ». Donc, Moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il n'a pas vraiment mis le doigt, quand même. Psychologiquement, je ne vois pas comment il ferait ça en vérifiant bien. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est bien ça, hein. C'est mou. C'est... Non, je ne vois pas bien le... je vois pas bien ça. Et pourtant, toute la tradition l'affirme. Donc, y a même une lettre quand on lit dans l'office des lectures, la fête de Saint Thomas. Je crois que c'est là qu'on lit ça. Un père de l'Église qui dit qu'il est meilleur qu'il ne croit pas pour nous, parce que comme ça, il a touché. Et donc, on sait de source sûre que Christ est ressuscité, puisque même Thomas l'a touché. Donc, il est plus facile d'avoir des hallucinations visuelles que des hallucinations tactiles. Oui. Si vous êtes sur la route, vous avez l'impression qu'il y a de l'eau, bon, ben ça c'est banal. Si vous êtes en train de marcher, vous avez l'impression qu'on vient de vous pousser, là, il faut consulter. Hein. Ou, si les syndromes persistent, vous voyez même peut-être un exorciste. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Alors là, c'est énorme, parce qu'au fond, personne n'a fait une déclaration comme ça. À quel moment vous voyez dans l'Écriture qu'il y a quelqu'un qui dit à Jésus, « Tu es Dieu ?» Pas beaucoup, hein. Pierre dit, « Éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Mais là, c'est vraiment « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors, « Seigneur », pour un hébreu, c'est Yahweh, hein, Yod-Heh-Vav-Heh. « Mon Dieu », c'est Elohim. Donc, c'est « Mon Yahweh » et « Mon Elohim ». Donc, c'est vraiment les deux noms sacrés dans l'Écriture. Donc, Yahweh, c'est peut-être plus le point de vue personnel. Elohim, c'est peut-être plus le point de vue transcendant. Donc, tu es à la fois le tout autre et le tout mien. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'affectif. Il ne dit pas « Seigneur et Dieu », il dit « Mon Seigneur ». Donc, vous avez à la fois une très grande révérence et à la fois une très grande affection. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc là, c'est vraiment la conversion, la résurrection de Thomas. Là, il passe du doute à la foi et à la plus belle proclamation de foi qui soit. Et donc, il convenait effectivement que Thomas fasse ce parcours pour nous donner aussi cette affirmation incroyable, « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est tout à la fois un acte de foi, d'adhésion et un acte d'affection. Oui. Et ça, c'est le propre de la foi chrétienne. Notre foi est une adhésion à un credo, mais une adhésion affective. C'est pas simplement « Oui, donnez-moi le contrat, je signe, ok, je prends tout ça ». Je crois en tout ça, mais d'une foi aimante. S'il n'y avait pas une foi aimante, c'est la foi morte. Les démons aussi ont la foi, comme dit Saint Jacques, et ils tremblent. Donc la foi implique toujours ce qu'on appelle une pia affectio, une affection pieuse. Donc notre foi, elle est toujours affectueuse, si elle est vivante. Et donc c'est la résurrection de Thomas. Tout se passe comme si Thomas était maintenant tiré du néant, du refus de croire, du nihilisme, et il s'ouvre à la lumière. Avant, Thomas était en négatif. Si je ne mets pas ma main, je ne croirai pas. Non, non, non. Et en présence de Jésus, il est comme retourné en positif. Mon Seigneur et mon Dieu. Donc c'est le passage de l'absence à la présence, de l'isolement à la communion, du négatif au positif, finalement de la non-vie à la vie. C'est la résurrection de Thomas dont il s'agit ici, c'est l'ouverture du tombeau pour lui. Et Jésus lui dit, « Parce que tu me vois, tu crois, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » D'une certaine façon, dans l'évangile de Jean, on peut dire que c'est la dernière phrase de l'évangile de Jean. Après ça, vous avez une conclusion. Et puis après, il y a le chapitre 21 dont certains pensent qu'il a été écrit plus tard et que l'évangile de Jean donc, se terminerait au chapitre 20 et que même ça serait donc la dernière phrase avant la conclusion. « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Donc la béatitude des croyants. Donc le thème ce soir, c'est la guérison des doutes. Et ce qu'il faut comprendre dans cet évangile, c'est la manière dont Jésus vient guérir nos doutes. Comment il vient au secours de notre incroyance. Oui, le doute, ce n'est pas seulement la méconnaissance. Marie-Madeleine était dans l'ignorance, dans la méconnaissance. Je vous rappelle, hein, Saint Jean insiste beaucoup sur ça. Jésus est en face d'elle, elle le prend pour le jardinier. Donc c'est ballot, il y a un côté un peu lourd de l'ignorance. Mais au moins, elle n'est pas dans l'orgueil. Dès qu'elle entend son nom, ça y est, elle le reconnaît. Thomas, lui, il doute dans un témoignage communautaire quand même. C'est plus... quelque chose d'opiniâtre. Donc son doute procède d'un esprit qui se fie plus à lui-même qu'aux autres. Et là, je trouve ça, moi, très consolant et très pacifiant, de temps en temps, de penser que je crois ce que croit l'Église. Et si des fois, vous avez des doutes, vous avez des matins où vous dites, est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il est vraiment présent dans l'Eucharistie? Est-ce que ceci ou cela? Moi, je trouve très réconfortant de dire, mais l'Église y croit. Et que finalement, mon « je » est un « nous ». Nous vivons en Église. Et donc, si moi, aujourd'hui, j'ai un petit coup de mou et mon « je » personnel se met à douter, l'Église, elle, ne doute pas depuis 2000 ans. Et donc, c'est très rassurant de se dire « je ne suis pas tout seul comme croyant à me faire ma petite sauce à moi, ma petite recette, et selon les jours, j'y crois ou j'y crois pas. Ça, c'est ma subjectivité, mon vécu. Et au fond, ce n'est pas un problème. » Du moment que ma foi reste celle de l'Église, finalement, qui, elle, continue de croire depuis 2000 ans dans une tradition unanime, dans l'Évangile. Donc c'est intéressant de se dire que mon « je » est un « nous ». Mon « je crois » est un « nous croyons ». Alors même dans son incroyance, il a quand même quelque chose que je trouve très touchant, c'est qu'il se tourne vers la bonne cible. Quelque part, il n'est pas d'accord avec les autres, il ne croit pas, mais son instinct lui fait dire « si je ne vois pas la marque des plaies, il se tourne vers les plaies de Jésus, en fait. » Alors ça, c'est ce qu'il faut faire. Là, il est juste, vous voyez, il rate la cible, mais il ne rate pas la porte. Quelque part, il est dans la bonne direction. Il ne croit pas, mais il se tourne vers le bon endroit pour croire, les plaies de Jésus. Spontanément, c'est vers la croix qu'il dirige son intention. Eh bien, nous, il faut faire de même. On ne peut pas mettre littéralement nos doigts dans les plaies de Jésus, mais on peut le faire spirituellement, et pendant ce carême, notamment en méditant sur les plaies de Jésus, avec un joli petit livre, pas cher. Si on va vers les plaies de Jésus, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le sceau de la victoire. Puisque c'est le ressuscité ici qui apparaît avec ses plaies. Il aurait pu apparaître après la résurrection sans les plaies. Pourquoi le Christ ressuscité, il a toujours les marques des clous et la blessure du cœur? Comme pour nous dire, tu vois, à jamais tu sauras que je t'aime à ce point. Et j'ai écrit ton nom dans la paume de mes mains, comme dit l'Ancien Testament. Donc, en fait, en contemplant les plaies de Jésus, on voit à quel point nous avons été aimés et qu'il a gravé mon nom sur la paume de ses mains. Thomas, parce que tu crois, parce que tu as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Notre culture est très marquée par le doute. Je vous disais, hein, il y a comme une sorte de... l'impression qu'on est intelligent, qu'on est plus intelligent quand on doute, qu'on est plus intelligent si on est athée que si on est croyant. Une sorte de choses comme ça. Et en même temps, ça conduit aussi à l'angoisse. Le père de la philosophie moderne, on dit que c'est Descartes. Bon, ça peut se discuter, certains disent que ce serait plutôt Montaigne, peu importe. Descartes passe généralement pour le père de la philosophie moderne. Et ce qui est très, très intéressant, on oublie souvent quelque chose chez Descartes. Je vous rappelle en gros l'idée de Descartes. C'est quelqu'un qui se dit « je ne suis pas sûr qu'une chose soit vraie, donc le mieux, pour ne pas me tromper, c'est que j'affirme rien, je nie rien sur cette chose, le doute. Ouais, je me mets à l'écart. Quand vous savez, dans une discussion comme ça, on dit « et toi, tu penses quoi ?» Il y en a, on ne pourra jamais dire qu'ils étaient d'accord, qu'ils étaient contre. Ils ont dit, moi, je suspends mon jugement. Je ne sais pas. À ce moment-là, il y a une manière de se protéger. Hein. Je ne m'engage pas. Je ne m'engage ni d'un côté, ni d'un de l'autre. C'est rassurant intellectuellement, comme ça, je ne fais pas d'erreur. J'ai tellement peur de faire des erreurs que je suis ni pour ni contre, je suspends mon jugement. Le doute. Et alors, Descartes va pousser ça jusqu'au bout. Il va se dire, mais de quoi je suis absolument sûr, finalement, dans la vie ? De pas grand-chose. Alors, à chaque fois que je vais être pas sûr qu'il y a une possibilité que ça soit pas vrai, je considère ça pour faux, ce qu'il appelle le doute hyperbolique. Je vais considérer pour faux tout ce qui n'est pas certainement vrai. Alors il arrive, je ne vais pas vous faire tout un cours sur Descartes, mais finalement il arrive à un truc qui est absolument indubitable. Je pense donc je suis, ça, au moins tout le monde le connaît, cogito ergo sum. Pourquoi c'est indubitable ? Parce que si je doute que je pense, ben je pense. Douter que je pense, c'est encore penser, non ? Donc vous pourriez dire je doute, donc je suis. Je doute, donc je pense, donc je suis. Et donc là il va arriver un truc super solide. Alors ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça, peu importe Descartes. C'est qu'il écrit ça dans ses Méditations métaphysiques en 1641, donc on est sur le début de la modernité, donc le début de notre culture moderne, et il est très typique de notre culture moderne. Première méditation, il doute de tout. Deuxième méditation, il commence comme ça. « La méditation que je fis hier m'a rempli l'esprit de tant de doutes qu'il n'est plus désormais en ma puissance de les oublier. Et cependant, je ne vois pas de quelle façon je les pourrais résoudre. » Et comme si tout à coup j'étais tombé dans une eau très profonde, je suis tellement surpris que je ne puis ni assurer mes pieds dans le fond, ni nager pour me soutenir au-dessus. Je trouve ça très intéressant parce qu'il nous montre que la conséquence de la méditation d'hier qui était sur le doute, c'est l'angoisse. Au début de la deuxième méditation, il se retrouve en fait en train de se noyer. Je suis tellement surpris que je ne puis ni assurer mes pieds dans le fond, ni nager pour me soutenir au-dessus. Eh bien, je crois qu'il faut prendre conscience de l'angoisse du doute. Nous sommes dans une culture qui a valorisé énormément l'esprit critique et le doute. Et pour une part, c'est intéressant. Mais le corollaire, c'est qu'à force de ne plus avoir de repères, de ne plus avoir de certitude, de douter de tout, on conduit les gens à l'angoisse. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf et croire bêtement. Il y a des raisons de croire, il y a une intelligence de la foi, ça s'appelle la théologie. La foi peut être très intelligente, mais n'empêche, le doute, lui, il est dangereux parce que quand il s'absolutise, il conduit à l'angoisse. C'est un des risques du relativisme moderne. Il y a un désarroi intellectuel mondial aujourd'hui qui fait qu'on est dans une perte de repères terrible et que finalement, la conséquence, c'est qu'il y a beaucoup d'angoisse qui est générée par cette perte de repères. Alors, on a besoin du Christ qui vient nous rendre la paix, qui rendre, nous donner aussi la joie de faire confiance. Réfléchissez sur ce que vous savez vraiment dans la vie. Qu'est-ce que vous pouvez savoir vraiment de certitude certaine, oui. Ben, en fait, vous allez vous apercevoir, il y a plein de trucs que vous considérez comme vrais. En fait, vous le croyez, vous ne le savez pas. Est-ce que vous pensez que la Terre est ronde, par exemple ? Ben oui. Enfin, moi, je crois. Les scientifiques le disent. Mais je les crois. Moi, je l'ai toujours vue plate. Quand je marche, le sol est plat, a priori. Donc, moi, je vois plutôt la Terre plate. On m'a dit qu'elle était ronde. Ben, je veux bien le croire. Mais c'est contraire à mon expérience. Donc, il y a plein de choses qu'on croit. Pire encore, est-ce que vous êtes sûr que vos parents sont bien vos parents ? Vous allez leur demander un test ADN, vous n'en êtes pas absolument sûr, vous le croyez. Et ce n'est pas gênant, heureusement que vous le croyez. Mais je veux dire, en fait, pour être heureux, il faut accepter qu'il y a plein de choses que je crois et que je ne sais pas de science pure. Je ne l'ai pas prouvé et heureusement, je n'ai pas tout à prouver. Et pourtant, je ne suis pas dans le doute, je fais confiance. Et donc, il y aurait comme aujourd'hui une réhabilitation de la confiance. De ne pas toujours penser que c'est être plus intelligent que de dire non et de douter. C'est très intelligent de faire confiance. Et plus intelligent, bien souvent, que de douter a priori d'une communauté unanime. Ça n'empêche pas l'esprit critique, hein, d'oser penser par soi-même aussi, c'est très intéressant. Mais c'est toujours une question d'équilibre, une question d'absolutisation. Alors un dernier point, Thomas c'est l'homme du non, c'est l'homme du négatif, et on voit que dans ses paroles il est tranchant comme un glaive. Non, vous avez tous tort, Ça devait être un type assez tough quand même. Et donc, peut-être un exercice cette semaine, puisque de semaine en semaine, on essaye aussi d'entrer dans ces méditations, les paroles. Je peux être négatif dans mes paroles tout le temps, ou je peux essayer d'avoir des paroles positives. Ça ne veut pas dire encore manquer de lucidité et être béni, oui, mais les paroles créent un impact. Dieu dit et cela fut. La Bible commence comme ça quand même. Dieu dit et cela fut, que la lumière soit et la lumière fut. Saint Jean le reprend, le Verbe s'est fait chair. D'une façon ou d'une autre, notre manière de parler influe sur les autres. Et donc si de façon régulière mes paroles sont négatives, je vais créer progressivement une culture négative. Il y a des philosophes comme ça, Adorno et Horkheimer, qui à la fin de la Seconde Guerre mondiale ont été engagés pour faire une enquête sur les raisons pour lesquelles certains pays étaient devenus fascistes. Et dans leur conclusion, il y a quelque chose de très intéressant. Ils disent une des raisons pour lesquelles certains pays sont devenus plus fascistes que d'autres, c'est l'éducation et la manière dont on se parlait en famille. Le bain langagier dans lequel ont évolué les enfants les ont conduits plus facilement au fascisme que dans d'autres cultures. Eh bien, au fond, c'est une idée très forte, c'est qu'on construit une culture par la parole. On construit une ambiance, une communauté, une famille par la parole. Comment nous parlons-nous en famille? Est-ce qu'on a des paroles toujours négatives, des paroles d'exclusion? Il y a « eux » et « nous ». Ou est-ce qu'on a des paroles plus inclusives, plus démocratiques? Si on avait une sorte de sismographe, vous savez, ces instruments pour voir les tremblements de terre, et qu'on nous mettait ça sur la tête au cours de la journée, pour voir l'impact des paroles, on verrait qu'à chaque fois qu'on nous parle, l'aiguille bougerait d'un côté ou de l'autre. Alors, mettons, on va mettre à droite, c'est des, pas politique, hein, c'est des conventions habituelles, à droite le plus, à gauche le moins. À ce moment-là, on me dit « Bonjour, t'as vu, il fait super beau, c'est sympa. » Petite oscillation sur la droite. Grande déclaration d'amour de quelqu'un que j'aime. Énorme oscillation sur la droite. Après, inverse. Vous voyez, quelqu'un me dit « Oh, c'est encore un temps pourri, quand est-ce que va venir enfin le printemps ?» Enfin, petite oscillation sur la gauche, je ne sais pas que ça me gêne, mais enfin, ce n'est pas la parole qui va aujourd'hui me booster particulièrement, dont j'avais besoin. Un père qui dit à son fils « T'es nul, mon fils, tu ne feras jamais rien dans la vie. » Grande oscillation sur la gauche. Et en fait, par nos paroles, comme dit le livre des Proverbes, la vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Je peux crucifier quelqu'un par une parole, je peux ressusciter quelqu'un par une parole, je peux décourager quelqu'un, je peux encourager quelqu'un. Je peux donner la vie, je peux donner la mort par une parole. Même Freud le disait. Avec des mots, un homme peut rendre son semblable heureux ou le pousser au désespoir. Et c'est à l'aide de mots que le maître transmet son savoir à ses élèves, qu'un auditeur entraîne ses auditeurs et détermine leurs jugements et décisions. Les mots provoquent des émotions et constituent pour les hommes le moyen général de s'influencer réciproquement. Alors, parfois ça peut être du coup un instrument de manipulation. Il faut faire attention à la rhétorique manipulatoire. Mais quand même, les mots, qu'on le veuille ou non, ont un impact sur une ambiance. Et donc, on peut s'entraîner à essayer d'avoir des mots qui sont bienfaisants, des paroles bienfaisantes et non pas des paroles toxiques. Voilà, eh bien, bonne discussion entre vous. Et puis, essayons de garder ça en mémoire pour que la semaine soit ensuite éclairée par ce texte merveilleux de l'annonce de la résurrection à Thomas.